de Paul Bourget, L'eau profonde. À Henri Amic. Beaucoup de proverbes revêtent, en passant d'un pays dans un autre, une physionomie si différente que cette variation seule prouverait combien les caractères nationaux demeurent des réalités radicalement distinctes et irréductibles. Le français, par exemple, dit d'un homme heureux qu'il est « né coiffé », l'anglais qu'il est né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Deux dictons, deux races, deux destinées. Un peuple léger, fringant, élégant, d'une part, amoureux de la galanterie, passionné de plaire et volontiers frivole. Une nation, d'autre part, avide et solide, éprise du positif et qui veut du confortable dans du luxe. Voilà quelques premiers traits dans un premier proverbe. Voici d'autres touches dans un second. De quelqu'un qui ne se livre pas, le français dit « Il n'est pirot que l'eau qui dort ». L'italien « Les eaux paisibles brisent les ponts ». L'anglais « Les eaux tranquilles roulent profondes ». Et tous les trois ont raison, dans leur pays. Pour le français, si instinctivement expansif et sociable, une joie qu'il ne communique point est une moitié de joie, une peine qu'il garde sur son cœur, une double peine. Il juge ses voisins d'après lui, et devant une réserve prolongée, il se méfie. L'italien, lui si naturellement réfléchi et calculé, pousse la méfiance plus loin encore. Dans toute retenue, il voit une menace, dans tout silence, un piège. Mais Machiavel est de Florence, du pays où la finesse ne va jamais sans la grandeur, et cet aphorisme d'expérience prudente se désembourgeoise, si l'on peut dire. Il s'ennoblit d'une belle métaphore qui vous dessine une arche, roussie par d'innombrables soleils, sur le glauque Arnaud ou le Tibre jaune. Chez les Anglais, l'esprit réaliste s'accompagne de la plus solitaire, de la plus méditative rêverie. Regardez la carte de leur île. Vous y verrez que Manchester est voisin des lacs et du comté de Wordsworth. Tout à l'heure, ces éternels gaigneurs avaient un adage de gloutonnerie rapace. Ils en ont un maintenant d'une grâce sauvage, qui ne déparerait pas les discours du Jacques de « comme il vous plaira ». Et l'anglo-saxon n'apparaît-il pas ainsi dans toute son histoire et toute sa littérature ? Durement brutal, quand il est brutal, étrangement songeur quand il est songeur. Ces deux petites phrases racontent cela dans le raccourci de leur formule. Il n'est que juste d'ajouter que ces définitions de psychologie ethnique comportent d'innombrables exceptions. La preuve en est que se ressouvenir de ce poétique proverbe anglais sur les eaux profondes s'évoque à ma pensée, oh ironie, au moment de rapporter une aventure parisienne, arrivée l'autre automne, et dont l'héroïne n'a pas dans les veines la moindre goutte de sang britannique. Aucune image pourtant ne m'a paru mieux résumer l'impression que m'a laissé ce petit drame sentimental, lorsqu'il me fut appris par des confidences dont je respecterai le mystère. Cette tragédie de salon s'étant jouée sans éclat, entre un très petit nombre de personnages, un changement de nom et de quelques détails sauvegardera un anonymat dont le lecteur reconnaîtra la nécessité, s'il veut bien admettre, malgré la singularité de certains détails, que tout ici, sous cette réserve nécessaire, est strictement vrai. Peut-être, une fois le récit achevé, la lectrice, elle, si elle s'est intéressée aux secrètes épreuves de la délicate femme dont l'eau profonde est l'histoire, comprendra-t-elle que ces deux mots aient, par une irrésistible coïncidence, tenté l'historien. Il eût voulu retrouver, pour tracer ce portrait, la plume avec laquelle Balzac a dessiné le profil de sa Madame Jules, cette héroïne d'un épisode plus romanesque encore et un peu analogue. Il a cru, du moins, indiquer tout ce qu'il laissera de forcément inexprimé en inscrivant sur la première page un rappel du vieux proverbe shakespearien. Peut-être aussi cette indulgente lectrice trouvera-t-elle un symbole dans le contraste entre le parisianisme des endroits où cette chronique demeure déroule ses incidents et les visions d'outre-Manche qu'aura évoqué pour elle ce Stillwater John Deep. La coulée taciturne d'un fleuve d'Irlande parmi ses prairies, l'immobilité vaporeuse d'un lac d'Écosse dans la solitude de ses roses bruyères. Pour peu qu'elle soit d'une sensibilité tendre et farouche au fond, et la prisonnière de ses desséchants devoirs, de ses meurtriers plaisirs que représente ce malheur envié, une situation de monde, cette antithèse, n'est-elle pas celle de toute son existence? Elle voudrait, autour de ses émotions, de ses espérances, de ses regrets, un cadre de nature qui leur ressemblât, et elle doit passer de la rue de la paix et d'un essayage chez un grand couturier à une tournée de visite dans la plaine Monceau, les Champs-Élysées, le faubourg Saint-Germain, pour rentrer, s'habiller, dîner en ville ou recevoir, et finir sa soirée dans quelque cohue prétendue élégante ou dans quelque loge d'un théâtre prétendu amusant. Il faut croire que ces heurts presque meurtriers du cœur et du milieu ont une espèce d'attrait malsain, frelaté, mais bien fort, et qu'ils correspondent dans les sensibilités les plus fines à un inexplicable besoin de sursaut. Car Paris et sa société, ou mieux, le recrutement fantastiquement composite du monde actuel exige ce pluriel. Paris, donc, et ses sociétés, continuent de retenir tant de personnes que leur fortune rendrait libre de s'enfuir. Elles en maudissent quotidiennement la servitude, l'atmosphère morale, et elles ne s'en vont pas. Comme si, partout ailleurs, l'intensité de leur vie devait être diminuée. L'anecdote rapportée ici prouvera qu'en effet, cette ville, qui réalise à chaque heure le mot célèbre de l'empereur sur l'impossible, abrite tout dans son décor hétéroclite, même de grandes âmes. 1. Sur une piste. J'ai dit que cet épisode datait de l'automne dernier. J'aurais mieux fait de dire son dénouement. La portion dramatique de l'aventure ne fut, comme il arrive souvent, que l'explosion d'une mine longtemps creusée. Mais, sans un très petit hasard, et bien improbable, ce travail souterrain eût-il jamais abouti? La vie humaine est ainsi. Le nécessaire et le fortuit s'y mélangent d'une telle façon qu'à regarder ces entrelacs de causes et d'effets, on éprouve une impression indémêlable de logique et d'incohérence, où seule la foi en une souveraine raison nous permet de pressentir une action providentielle. C'est là un point de vue d'ensemble, et que notre philosophie conçoit quand elle s'exerce sur une suite d'années. Cette philosophie reste dépourvue lorsqu'elle essaie d'interpréter dans un pareil sens des événements d'une radicale insignifiance. Celui, par exemple, qui précipita la tragédie que j'ai l'intention de raconter, une visite d'une jeune femme dans un grand magasin de nouveautés. La jeune femme dont il s'agit, et que j'appellerai, en lui conservant son titre, ce détail a sa petite importance. La baronne de la Node était en quête de tapis volants, fort bourgeoisement. Elle avait entendu dire que le grand magasin en question avait reçu un arrivage de vieilles carpettes d'Orient. Elle était donc venue là, par ce commencement d'une après-midi de novembre, avec l'espérance qu'elle pourrait, à ce moment de la journée, se faire montrer quelques échantillons en évitant la foule. Ayant trouvé ce qu'elle cherchait, elle regagnait la sortie d'un pas lent, le regard amusé, malgré elle, aux mille et mille objets de toute provenance et de tout usage, entassés sur les comptoirs, pendus aux murs, accrochés à des tringles, empilés dans des armoires, étalés dans des vitrines. Le tableau teint est trop connu pour mériter même un crayon. La jeune baronne était entrée dans le magasin à 2 heures. Il n'en était que 3. Et déjà cette foule qu'elle avait désiré éviter commençait de la presser de toutes parts. L'énorme bâtisse regorgeait de ce formidable afflux féminin qui semble donner raison aux prophètes de la démocratie. Le rêve du nivellement universel n'est-il pas réalisé dans le dédale d'un pareil emporium? Les diverses classes n'y sont-elles pas confondues dans un pêle-mêle extravagant? La modeste épouse du fonctionnaire à 1800 francs y coudoie la compagne du financier juif, dont les bénéfices de bourse se chiffreront, le 31 décembre, par un 500 000. La provinciale, pour laquelle le voyage à Paris est un événement, y frôle l'étrangère qui va de Saint-Pétersbourg au Caire et de Cannes à New York, sur un oui, sur un non, aussi facilement qu'elle est venue ici de son hôtel de la place Vendôme. La fille à la mode, que son automobile de grande marque attend à la porte, croise l'étudiante du quartier latin qui a trottiné le long des rues pour épargner au budget de son ménage bohémien les 30 centimes du tramway. Le colossal bazar n'a-t-il pas une tentation pour chaque désir, une occasion pour chaque besoin? Même une grande dame authentique, qui n'eût eu, voici 50 ans, que des fournisseurs personnels, finit par avoir recours aux banales et commodes caravansérails, quitte à s'y promener, comme faisait madame de Lanode, en dépit de la promiscuité forcée, avec cet air patricien qui ne s'imite pas, qui ne se définit pas. On discerne à peine en quoi il réside. C'est une façon de poser le regard et de porter la tête, de se tenir et de marcher, où il y a de la réserve et de l'assurance, de la fierté et du naturel, un rien de hauteur et de la simplicité, un quant à soi tout en nuances. Mais aucune femme ni aucun homme ne s'y trompe. Certes, madame de Lanode n'avait en elle, quand on analysait sa personne, rien de particulièrement remarquable. Il semblait qu'elle dût passer partout inaperçue. C'était une femme plutôt petite, jolie, d'une joliesse un peu menue, un peu sèche. Elle avait des yeux bruns dont les prunelles se faisaient aisément ternes au repos. Des cheveux châtains, pareils à tous les cheveux châtains. Une taille mince, pareille à toutes les tailles minces. Ses toilettes n'offraient, elles non plus, rien de très affirmé, de très voyant. Elle était habillée ce jour-là d'une robe de ville, d'un petit velours marron avec un semis de pois blanc, et coiffée d'un chapeau assorti, sans le moindre caractère d'excentricité. Et les acheteurs et les acheteuses qu'elle croisait la suivaient d'un regard plus appuyé. Les vendeurs s'avançaient à son approche avec un empressement plus déférent. De ravissants détails, des oreilles coquettement ourlées, des dents très blanches et bien rangées, la finesse de ses mains et de ses pieds, corrigeaient sans doute ce que cet aspect général aurait eu d'indifférent, n'eût été le « je ne sais quoi ». Mais elle l'avait, ce « je ne sais quoi », et elle savait qu'elle l'avait. Un léger, un imperceptible pli d'impertinence flottait, plus encore qu'il ne se creusait, au coin de ses narines minces et de ses lèvres, sensuelles tout ensemble et sans bonté. C'était le défaut de cette physionomie. Rendue à elle-même, et quand rien ne suscitait son attention, comme maintenant, il s'en dégageait une maussaderie qui pouvait déceler également l'apathie d'une Parisienne épuisée de frivolité et une extrême surveillance de soi. Cet air inamusable était tellement empreint sur ce visage délicat et inexpressif qu'il décourageait aussitôt l'attention que l'aristocratique allure de la passante avait suscitée. « Ce n'est pas la peine d'essayer », se disaient les vendeurs qui se rabattaient sur d'autres clientes d'aspect plus avenant. « À quoi bon ?» songeaient les jeunes gens. comme il s'en rencontre toujours dans ces foules, prêts à suivre indéfiniment une femme distinguée, sans l'aborder, pour en rêver ensuite, non moins indéfiniment. Pourtant, si l'un d'eux se fût attaché au pas de la visiteuse, il eût vu subitement, à une certaine minute de cette promenade dans les galeries du grand magasin, ses traits, d'une froideur presque impassible, se contracter dans une expression de curiosité aiguë. Un éclair s'allumait dans ses prunelles mornes, ce pas indifférent se hâtait. Il fallait que, parmi cette foule houleuse qui piétinait et bruissait dans l'atmosphère de plus en plus étouffante, Madame de La Node eût aperçu quelque chose ou quelqu'un qui éveillait en elle des émotions profondes, car cette métamorphose instantanée, et qui, pour l'observateur étranger, eût tenu du miracle, s'était accomplie sur un coup d'œil. Une silhouette, apparue et reconnue, entre tant d'autres, au bas d'un escalier, y avait suffi. Et voici que ses petits pieds précipitaient cette descente, voici qu'elle se haussait par-dessus les épaules dressées devant elle, pour ne pas perdre de la vue la personne dont la seule présence venait de la saisir ainsi. Cette présence n'avait pourtant rien que de très naturel, et cette personne n'était autre qu'une de ses cousines, qui était, ou passait pour être, une de ses amies intimes, la plus intime, la jeune marquise de Chaligny. Mais Jeanne de La Node avait ses motifs, et de très pressants. La suite de ce récit le démontrera trop. Pour attacher une importance extrême aux moindres faits et gestes de cette prétendue amie. Valentine, ici ? Se disait-elle donc en se glissant à travers le flot de plus en plus serré des acheteurs. Elle était guidée par la couleur grise de deux larges ailes d'oiseau qui garnissaient le chapeau de Madame de Chaligny. Après qu'elle m'a refusé de sortir ensemble parce qu'elle avait à faire des visites. C'était donc un prétexte pour ne pas être avec moi. J'observais bien qu'elle changeait. Elle a des soupçons. Je le répète à Norbert depuis Deauville. Mais voilà une occasion de l'interroger, ou jamais. Ce refus de ma compagnie, et puis qu'elle soit là, quand on veut savoir la vérité sur les grandes choses, il vaut mieux prendre de tout petits moyens. D'ailleurs, à sa mine, quand elle me verra, je jurerai ce qui en est. Ce discours intérieur enveloppait un de ces redoutables secrets, comme la vie élégante en cache tant sous ses rides frivoles. De se le prononcer avait mis du rose aux joues d'ordinaire trop pâle de la jeune femme. Ses mouvements avaient pris une agilité qui, déjà, malgré les obstacles, la rapprochait de celle qu'elle poursuivait. Encore quelques secondes, elle la rattrapait. Quand tout d'un coup, elle commença de ralentir son allure, comme si une idée nouvelle la déterminait à maintenir la distance qui la séparait de Madame de Chaligny. C'est qu'en enveloppant, en perscrutant du regard sa cousine qui ne la voyait pas, Madame de La Node venait d'éprouver en effet une impression, d'abord confuse et inconsciente, puis précisée jusqu'à devenir le principe d'une nouvelle curiosité. Il lui avait semblé que l'autre traversait la foule comme quelqu'un qui cherche à s'y perdre, afin de dépister toute poursuite. La marquise était habillée d'une de ces robes de teinte neutre qui n'attirent pas l'attention. La voilette aux mailles serrées qui moulait son visage avait été choisie épaisse à dessein. Elle marchait vite, en personne extrêmement pressée, et sans prendre garde aux colifichets exposés autour d'elle. Où va-t-elle ? Cette question n'eût pas plutôt traversé l'esprit de Jeanne qu'elle y avait répondu mentalement, comme auraient fait 999 parisiennes sur 1000. Où donc peut aller une jolie femme de 30 ans et qui se cache ? Était-il possible pourtant que Valentine, la sévère et prude Valentine, fût vraiment en train de se diriger vers un rendez-vous coupable ou d'en revenir ? Tout dans son caractère protestait contre une pareille hypothèse. Madame de La Node le savait mieux que n'importe qui, ayant été élevée avec elle, et se trouvant, pour des raisons qui n'étaient pas à sa gloire, au courant des plus intimes secrets de l'existence de sa cousine. Mais quand une femme n'est pas une honnête femme, et Jeanne n'en était pas une, elle ne croit jamais sans réserve à l'irréprochable vertu d'une autre. Que le plus léger indice la mette sur la voie de ce que l'argot du monde appelle un paquet, et vous la verrez, fût-ce à propos de sa meilleure amie, déployer un génie de soupçon aussi flétrissant que celui d'un vieux magistrat. C'était certes des riens, et qui pouvaient s'expliquer si simplement. Ce refus de sortir à deux, ce prétexte de visite, puis cette entrée dans ce grand magasin. Il suffisait que Madame de Chaligny n'eût pas trouvé là ou les personnes qu'elle allait voir, ou bien qu'en passant rue de Rivoli, devant la principale façade de l'immense maison de nouveautés, l'idée d'un achat en retard lui eût traversé la mémoire. C'était un rien encore, cette mise effacée, ce voile épais, ce glissement presque furtif à travers la foule. Et déjà, cette si vague, cette si gratuite hypothèse d'un mystère criminel contrebalançait dans l'esprit de Jeanne la longue expérience qu'elle avait de la nature de Valentine, puisqu'elle la suivait de loin, maintenant, et sans l'aborder. Elle la vit, marchant toujours de ce pied qui va droit vers son but, sans une distraction, sans un arrêt, s'engager de galerie en galerie, et gagner enfin une porte écartée du magasin, presque à l'angle de la rue Saint-Honoré, en face de la rue Croix-des-Champs. Madame de Chaligny, au moment de pousser l'énorme battant vitré, fut prise dans un groupe d'arrivants. Elle dut attendre une minute, et elle se retourna. La poursuivante, qui n'était qu'à quelques mètres, n'eut que le temps, pour n'être pas surprise en flagrant délit de son ignoble espionnage, de se retourner elle-même, et de s'absorber dans la contemplation d'un lot d'objets de cuir étalés devant elle. Valentine de Chaligny ne l'avait-elle pas vue, ou bien, l'ayant reconnue, ne s'était-elle pas crue reconnue? Toujours est-il que Jeanne, lorsqu'elle regarda de nouveau, n'aperçut plus les ailes grises du chapeau, son point de repère dans cette course à deux à travers la cohue. Le soupçon grandissant continuait de la posséder avec tant de force qu'elle courut, plutôt qu'elle ne marcha, vers la porte, assez vite, pour qu'arrivée sur le trottoir, son regard circulaire, et qui fouilla trois rues à la fois, saisit la silhouette à la poursuite de laquelle elle s'acharnait. Madame de Chaligny parlementait avec le cocher d'un fiacre, évidemment arrêté au passage. Cet homme retenait son cheval impatient au milieu de la rue Saint-Honoré, tout en écoutant l'adresse que lui donnait sa nouvelle cliente, la main sur la portière ouverte. Il fit le geste d'avoir compris. Les ailes grises s'engouffrèrent dans la voiture. La petite main referma la portière, et le cheval partit dans la direction du Louvre, si vite que Madame de Lanode désespéra de trouver sur place un véhicule qui lui permit de suivre la piste où le plus inattendu des hasards la jetait. Elle héla un premier cocher qui passait, puis un second. À son appel, ils opposèrent, celui-là un insolent silence, l'autre un imperceptible haussement d'épaule. Ils avaient tous deux leur voiture occupée. « Que je suis sotte !» se dit la petite baronne. « Je ne la rattraperai plus maintenant. Il faudrait savoir si elle est sortie de chez elle avec ses chevaux et ses gens. » Et, obéissant machinalement à l'instinct de police, soudain éveillée en elle par cette rencontre, elle longeait déjà le trottoir qui va vers la place du Palais Royal. Elle se préparait à passer la revue des équipages qui attendaient à la queue leu-leu. Elle n'eut pas besoin d'une longue recherche pour reconnaître, debout parmi les autres domestiques en livrée qui stationnaient devant la grande porte, Jean, le valet de pied de la marquise. Un peu plus loin, le cocher Joseph, assis sur son siège, maintenait les deux chevaux bais, attelés au coupé officiel. Valentine avait exécuté la classique manœuvre. Elle était descendue de sa voiture à cette entrée pour assurer un alibi à son emploi d'après-midi, en vertu de l'aphorisme du misanthrope sans repentir. avant d'arriver où elle ne veut pas être vue, une femme qui sort va toujours où elle veut qu'on la voie. Et encore une fois, où donc peut aller une jolie femme, et de ce rang, qui ne veut pas qu'on la voie ? 2. Histoire abrégée d'une longue haine. Pour comprendre quel sentiment une pareille découverte soulevait chez Jeanne de La Node, il est nécessaire de préciser une situation de fait, déjà indiquée, et une situation de cœur, plus essentielle encore. Certains actes sont par eux-mêmes si graves qu'ils semblent toucher la limite de notre culpabilité. Ils peuvent s'aggraver cependant encore par la malice des sentiments qui nous y ont poussés. On l'a deviné à travers les lignes du début de ce récit. À la date où cette histoire commence, Madame de La Node avait une liaison avec Norbert de Chaligny, le mari de Valentine. Cette liaison durait depuis plus d'une année. Si l'on pense que les deux cousines n'étaient pas seulement apparentées par le sang, étant les filles des deux frères, mais qu'elles ne s'étaient jamais quittées, qu'elles avaient grandi ensemble, débuté dans le monde ensemble, et que cette intimité s'était accompagnée, qu'elle continuait de s'accompagner de ces chatteries de langage et de manières, la grâce caressante des amitiés féminines. Peut-être jugera-t-on que cette perfidie dépassait de beaucoup la mesure de ces coquets délits mondains qui se commettent quotidiennement sous le nom jadis si grave, aujourd'hui très insignifiant, d'adultère. Le vrai crime de cette aventure n'était pourtant pas là. Dans une trahison que la faiblesse d'un cœur surprit, un mariage mal assorti, Jeanne était séparée de son mari depuis 3 ans. Un amour partagé pouvait expliquer. Le motif véritable de la faute était pire que cette faute. Il tenait tout entier dans la plus mesquine, dans la plus dissimulée des passions. Mais c'est la plus violente dont les natures sèches soient capables. Madame de La Node n'aimait pas Chaligny. Elle haïssait Valentine. Et depuis leur lointaine enfance, pour des raisons si profondes, si mêlées aux arrières replis de sa personnalité, qu'elle les avait ignorées d'abord elle-même. Elle n'en était pas très consciente encore aujourd'hui. On ne s'avoue pas aisément que l'on envie quelqu'un. Le mot hideux de cette énigme morale est prononcé. Car c'est s'avouer à la fois une infériorité par rapport à celui que l'on envie, et la présence en soi d'un sentiment avilissant. Mais quelque déguisement que prennent nos bas instincts, leur vilenie n'en subsiste pas moins sous les formes hypocrites dont nous les habillons à notre propre regard. Et c'était bien l'insupportable crispation de tout l'être devant la félicité d'un autre être que Jeanne avait commencé d'éprouver auprès de Valentine, dès l'enfance, quand elles étaient deux petites filles qui couraient dans les allées du parc, leurs nattes dans le dos. Cette même crispation, elle l'éprouvait à 30 ans, maintenant que leur vie à toutes deux était faite. « Si injustement !» pensait Madame de La Node. De la destinée de sa cousine, Jeanne ne voyait que les réussites, de la sienne propre, que ses échecs. En pensant et sentant ainsi, elle se trompait. Mais l'envie ne se trompe-t-elle pas toujours quand elle imagine la joie d'autrui? C'est là son premier châtiment. Elle l'exagère et en souffre davantage. Elle se trompe aussi le plus souvent quand, ensuite, elle essaie d'organiser le malheur qui doit la venger. 9 fois sur 10, ses efforts, faussés par la haine, atteignent précisément le résultat contraire. La mise en lumière de ces 2 lois, assez consolantes dans leur pessimisme, servira de moralité à cette analyse d'une crise aiguë traversée par un ménage parisien dans la première année du XXe siècle. Comme tant de nos mauvais sentiments, cette envie de Jeanne pour sa cousine s'était insinuée dans son cœur sous ces apparences de délicate susceptibilité qui nous permettent de mal agir en nous en excusant. Les pères des 2 cousines étaient frères, je l'ai dit plus haut. Ils s'appelaient, d'après la funeste coutume française qui détruit la noblesse en multipliant les titres de courtoisie, au lieu que toute la maison devrait être titrée dans un seul membre, son représentant. L'un le comte, l'autre le vicomte de Nérestin. Valentine était la fille de l'aîné. Celui-ci avait hérité le magnifique donjon familial qui porte leur nom et qui partage, avec ceux de Rambure et de la Tour Enguerrand, l'honneur d'être en Picardie la plus intacte des forteresses construites contre l'invasion anglaise. Nérestin date de 1338, de l'armistice même que le pape Benoît XII imposa au roi Édouard III. Les partages, en attribuant cette merveille d'architecture médiévale au chef du nom et des armes, avait relégué le cadet dans une gentilhommière avoisinante, échue au Nérestin par la libéralité d'un allié, les Solets. Jeanne y était née. Ses plus lointains souvenirs d'enfance lui montraient le pauvre castel, un ancien pavillon de chasse, où elle grandissait, et par contraste, la seigneuriale demeure où habitait sa cousine. Ses impressions rétrospectives se précisaient. Elle se revoyait, toute petite encore, allant chercher Valentine, dont la mère venait de mourir, pour l'emmener passer quelques semaines dans ses modestes Solets. Son oncle allait voyager afin de distraire son désespoir. Il avait perdu sa femme d'une façon presque foudroyante, en pleine fleur de jeunesse et de santé. C'est là, dans le séjour de l'orpheline auprès d'elle, que Jeanne avait commencé de souffrir. Elle avait toujours eu quelques-uns de ces incorrigibles défauts qui tiennent à la réaction la plus involontaire de notre système nerveux. Elle les gardait encore à 30 ans, sous sa roideur jouée. Elle était impulsive et facilement désordonnée, inégale et capricieuse, remettant sans cesse au lendemain la besogne de la veille, perdeuse et gâcheuse. Enfin, une de ces machines nerveuses mal ajustées où les médecins modernes voient volontiers un type fruste de demi-hystérie. Sa mère, qui ne connaissait pas cette commodité des excuses psychologiques, lui avait toujours reproché ses fâcheuses dispositions. La présence de Valentine sous leur toit multiplia ses réprimandes à cause de la comparaison. Celle qui allait devenir la gentille châtelaine du glorieux Nérestin était en effet l'enfant la plus régulière, la plus réservée, la plus mesurée, une petite dame déjà. Et sa tante, gagnée par son charme, se prit à la vanter à sa propre fille, avec une imprudente partialité, en même temps que, par une pitié naturelle, mais non moins imprudente, elle prodiguait à l'enfant sans mère les plus indulgentes gâteries. L'irrésistible et secret instinct d'antipathie presque animale qui avait rendu insupportable à Jeanne ses éloges et cette tendresse se justifiait trop chez la fillette de 13 ans par la jalousie de l'affection maternelle. Cette affection avait été si vive qu'un jour il lui était arrivé, seul dans la chambre de Valentine, de tacher d'encre les cahiers rangés sur la table, de déchirer les effets pendus dans l'armoire, de jeter par terre et de piétiner le portrait de sa cousine, follement, furieusement. Après 17 ans révolus, elle se rappelait quelle honte avait brûlé ses joues et son cœur, quand Madame de Nérestin l'avait surprise à cette honteuse occupation de vengeance. Et ça avait été sa cousine qui avait demandé pardon pour elle et obtenu sa grâce. Ce méfait avait eu du moins cet avantage. Valentine partait presque aussitôt pour aller chez une autre de leurs parentes. La mère avait compris. Par une anomalie, étrange au premier regard, et qui apparaîtra comme bien logique à la réflexion, cette jalousie conçue pour Valentine fut la cause que, pendant leurs années de jeunesse, Jeanne se rapprocha d'elle plus étroitement. Envier quelqu'un, c'est y penser, c'est sentir par lui. C'est par un de ces détours déconcertants, si familiers à notre nature émotive, éprouver à la fois l'attrait et l'aversion de sa présence. L'envie n'est pas d'abord, elle n'est jamais la haine pure. C'est plus ou c'est moins, puisqu'il s'y mélange forcément une admiration douloureuse, involontaire, révoltée, mais une admiration tout de même, par suite une façon d'amour. Ainsi s'explique, dans l'existence des artistes, par exemple, ou cette passion compliquée à son domaine propre, ces alternatives d'engouement et de diffamation entre rivaux, aussi sincères que contradictoires. De leur 13e à leur 18e année, Jeanne fut persuadée qu'elle n'avait pas de meilleure amie que Valentine. C'était vrai, en ce sens qu'aucune de ses compagnes de cette époque ne lui donna des impressions aussi fortes. Soit qu'elle subit la fascination des jolies qualités de sa cousine, soit qu'elle se rebella contre elle, intérieurement, avec une amertume irritée. Cette cousine lui fut toujours, intimement, intensément vivante, à chaque heure, à chaque minute. Quand elles entrèrent toutes deux dans le monde, l'attrait l'emporta, pour un temps assez long, dans cette sensibilité mal équilibrée, par cette raison que Jeanne eut alors, pour la première fois, plus de succès que Valentine. Celle-ci, qui n'avait pas cessé de primer tant que les jeunes filles se mouvaient dans un cercle étroit, par le sérieux vrai, la délicatesse simple, l'harmonie, la suavité de tout son être, passa soudain au second plan lorsqu'elles commencèrent de figurer sur un autre théâtre. Il y avait dans Valentine un goût du silence, de l'effacement, et dans Jeanne un instinct de séduire, un appétit de briller, qui devait faire de l'une la plus méconnue des comparses, dans une première visite, un premier dîner, un premier bal, et attirer sur l'autre cette attention superficielle, mais grisante, dont tant de coquettes naïves sont trop aisément les victimes, dans cette époque de transition où la femme s'éveille au désir de plaire. Le résultat fut que Jeanne se maria, dès cette année de leur commun début, et la première. L'avidité de ce triomphe, le plus flatteur entre jeunes filles, ne fut pas étrangère à la facilité avec laquelle elle répondit « oui » à la demande du baron de la Node. Il faut ajouter que ce mariage représentait tout l'idéal que des parents un peu grisés, eux aussi, du succès de leur fille, puissent désirer chez un fiancé en cet an de grâce 1890. Une tournure élégante, un beau nom, de la fortune, et ce prestige qu'exerce malgré tout, même sur des gens de la meilleure compagnie, quand ils ont beaucoup vécu en province, les personnalités parisiennes. Jules de la Node faisait courir. Il était du jockey. Il figurait au premier rang de cette coterie qui mène la mode à Deauville l'été, dans les chasses de Seine-et-Marne ou de Seine-et-Oise en automne, à Pau ou sur la rivière en hiver, et au printemps à Paris. Ce Paris qui va de la place Vendôme à Longchamp. Jeanne s'était vue, par avance, menant cette vie de fête perpétuelle, qui est réellement, pour leur malheur, le plus souvent, celle des jeunes femmes lancées dans le même tourbillon. Son orgueil de réussite, lors de ses fiançailles, était si profond, si complet, qu'il acheva de fermer la vieille blessure d'envie. Ces cicatrices-là sont, hélas, toujours si près de se rouvrir. Jamais auparavant, jamais depuis, elle n'avait autant aimé sa cousine. Elle était sur le point de la plaindre en comparant le brillant avenir qu'elle se forgeait par avance au sort encore incertain de l'effacer Valentine. Plus tard, elle devait en vouloir à l'autre de cette pitié, comme d'une duperie. Il n'est que juste de le reconnaître à sa décharge et pour expliquer, sinon excuser, les âcretés de ses désillusions. Si un tel mariage, malgré ses apparences séduisantes, avait beaucoup de chances de n'être pas très heureux, il en avait beaucoup de n'être pas très malheureux. Il s'en conclut tant de pareils, qui sont du moins tolérables. Or, celui-là fut très malheureux. Jeanne n'eut qu'un enfant, un fils qui naquit dans des conditions difficiles. Il fallut le sacrifier pour la sauver. La maternité lui était refusée pour l'avenir. Son mari, qui essayait, comme tant de ses camarades, d'élargir la marge de son budget en déplaçant et replaçant sans cesse les quelque 1 200 000 francs qui constituaient leur fortune liquide, se trouva pris, coup sur coup, dans plusieurs spéculations désastreuses. Il joua pour réparer ses pertes et perdit davantage. Il dut demander des signatures à sa femme. Celle-ci les donna d'abord, puis, conseillée par ses parents, elle refusa de renouveler des sacrifices où son indépendance aurait sombré. Ces questions d'argent devinrent, pour ce ménage sans enfants, auquel une quotidienne dissipation interdisait toute vie morale, le principe de discussions bientôt violentes et qui dégénérèrent en disputes. De scène en scène, la séparation s'imposa. Elle fut prononcée avant la fin de la 7e année de ce beau mariage, et si sympathique, comme avait dit le compte-rendu des journaux spéciaux lors de la célébration. Il y avait presque 4 ans de cela, et Jeanne s'attendait sans cesse que son mari demandât une dissolution plus complète du lien conjugal, pour se rendre libre entièrement et réparer par une nouvelle union sa fortune plus d'aux 3/4 détruite. Elle s'y attendait, et quoique les idées religieuses qu'elle prétendait professer lui fissent une obligation de résister à un tel projet, elle le désirait. L'article 310 du Code civil, qui permet à l'un des deux époux de faire transformer un jugement de séparation de corps en jugement de divorce, après un certain délai, faisait l'objet de ses continuelles méditations. Car à elle aussi, cet article ouvrait la porte à un second mariage qui eût contredit ses attitudes, que sa famille eût blâmé, que la société eût mal accepté. Tout ne valait-il pas mieux que cette précaire existence, à un second étage de la rue Barbet de Jouy, où elle était venue se réfugier, avec 32 pauvres 1 000 livres de rente, ce qu'elle dépensait pour sa toilette dans les débuts de sa vie de femme, et à 2 pas du somptueux hôtel qu'occupait sa cousine, devenue la marquise de Chaligny. C'était là, en effet, pour Jeanne, la lame brisée dans la blessure, la pointe enfoncée dans le plus intime de son amour-propre, presque de sa chair. À chacun des désastres de sa vie avait correspondu une chance heureuse dans l'existence de Valentine. Au moment même où Madame de Lanode accouchait, dans les tortures, de ce fils aussitôt perdu, Valentine se fiançait inespérément avec Chaligny, et tout de suite, elle venait habiter dans ce véritable palais de la rue de Varennes, digne pendant de l'historique Nérestin, dont elle était maintenant propriétaire. Un an après, elle y donnait naissance à une fille, puis, une année plus tard, à un garçon, qui vivait avec eux, qui grandissait, eux, et dont la grâce eût fait la fierté de tout foyer. Et voici que, coup sur coup, des héritages inattendus apportaient à l'heureuse mère une opulence qui dépassait les plus exigeantes ambitions formées pour ses enfants. Aussi oisif que Lanode, lancé comme celui-ci dans les hautes et mouvantes régions du sport et de la mode, Chaligny s'était trouvé aussi bon administrateur de ses revenus que l'autre avait été gaspilleur des siens. Il possédait cette entente avisée de ses intérêts, qui s'associe moins rarement qu'on ne le croit à ses existences de luxe et de prodigalité. Tous les gens riches ne se ruinent pas, et une fortune qui se conserve veut un talent, comme une fortune qui s'acquiert. Elle suppose ce don de bien calculer, qualité dont la présence ou l'absence n'a rien à voir ni avec notre intelligence, ni même avec nos mœurs. La preuve en est que le sens de la conservation de l'argent acquis se rencontre dans le demi-monde le plus corrompu et le plus ignare, aussi bien que dans la plus correcte bourgeoisie et la plus cultivée. Chaligny ne jouait pas sur un cheval qu'il ne gagna. Il ne donnait pas à son agent de change un ordre d'achat que la valeur ne monta. Et il était médiocre cavalier, médiocre boursier. Il se connaissait peu en objets d'art, et il ne se trompait guère sur un bibelot. Et ainsi du reste. Bref, À mesure que le ménage des Lanode allait se désagrégeant, celui des Chaligny allait se fortifiant, se développant, s'épanouissant, au moins dans ses manifestations extérieures qui font dire au public « Ce sont des gens heureux !» Comment l'ancienne envie n'aurait-elle pas reparu ? Plus forte, elle aussi, plus développée, plus épanouie dans le cœur de la cousine, séparée, ruinée, vaguement déclassée déjà, et qui pouvait se prononcer chaque jour en passant dans son coupé de remise loué au mois avec marchandage, devant la porte de l'hôtel princier de la rue de Varennes. Le « Pourquoi elle et non pas moi ?» murmurait jadis, toute petite, à la vue des quatre massives tours à mâchicoulis du donjon de Nérestin. Dangereuse parole, mais elle serait demeurée sans doute inefficace comme tant d'autres soupirs de jalousie jetés à chaque minute dans ce Paris de luxe et d'ostentation, par tant de vanité humiliée, que supplicie la vision de l'opulence étalée d'autrui. Le malheur voulut que Valentine, ou bien ne devina pas ses sentiments chez sa compagne d'enfance, ou bien qu'elle éprouva, les devinant, un magnanime besoin de les guérir à force de bonté. C'est la pire faute que l'envié puisse commettre à l'égard de l'envieux. Certains procédés très généreux, par la supériorité morale qu'ils démontrent, exacerbent encore la funeste passion. Dans le cas présent, ils avaient cet autre danger qu'il consistait surtout, de la part de la parente comblée, à sans cesse associer la parente moins fortunée aux facilités de sa vie. Déjeuner, dîner, courses en ville, loges de théâtre, séjours à la campagne, tout était prétexte à Valentine pour épargner à Jeanne une petite dépense, pour lui procurer un petit plaisir. Elle ne réfléchissait pas qu'avoir toujours Madame de Lanode auprès d'elle, c'était la mettre toujours auprès de son mari. Rien de plus propice aux séductions que ces intimités entre un homme jeune et une jeune femme, qu'un demi-cousinage rend naturellement familier, qui s'appellent par leur petit nom, sortent en tête-à-tête à la campagne sans que nul s'en étonne, s'écrivent quand ils sont séparés, s'habituent enfin au menu privauté de l'amour dans une amitié, bien vite troublée, si l'un des deux y apporte des pensées qui ne sont pas d'une droiture et d'une simplicité absolue. La tentation était trop forte pour Jeanne de prendre une revanche, après tant de secrètes humiliations, en dérobant à Valentine une part du cœur de Chaligny. Telle fut la première ambition d'un instinct de vengeance féminine, déjà très perfide dans sa relative innocence. Ses désirs d'une influence sentimentale ne vont guère sans un rien de coquetterie physique, et ce manège a pour inévitable effet d'éveiller chez celui qui en est l'objet l'émoi ingouvernable des sens. Une fois sur cette route, la coquette et son complice ne peuvent plus répondre d'eux-mêmes. L'obscur et redoutable animalisme qui gouverne, en dépit de nos orgueils et de nos complications, les rapports de l'homme et de la femme se déchaînent dans sa brutalité foncière. L'on a voulu préoccuper le mari d'une rivale, l'intéresser, le troubler, et l'on se réveille, comme il était arrivé à Jeanne de Lanode, la maîtresse de celui avec qui l'on prétendait seulement jouer, et pas davantage. Il y avait plus d'un an que cette coupable liaison s'était nouée, et au lieu de rencontrer, dans ce triomphe sur sa cousine bafouée et trahie, un apaisement à ses haines, la traîtresse les y avait envenimées. Par une contradiction qui démontre bien le caractère bâtard de l'envie, l'absolue confiance de Valentine, qui aurait dû flatter la rancune de Jeanne, l'avait aussitôt exaspérée. Ce rôle de dupe, pris comme il était par Madame de Chaligny, s'ennoblissait de trop de délicatesse, de trop de pureté. Cette régulière, cette harmonieuse, avait une manière de ne pas voir le mal qui ne permettait pas la moquerie. Elle ne le soupçonnait même point, parce qu'elle ne l'avait jamais ni fait ni même pensé. Le monde, qui commençait à s'apercevoir de l'intrigue engagée entre Chaligny et Jeanne, ne croyait pas sans réserve à l'aveuglement de la marquise. « Elle ne veut rien voir à cause des enfants, » disait-on. Madame de La Node, elle, savait combien il lui avait été aisé d'abuser une femme qui se serait mésestimée de supposer sa compagne d'enfance capable d'une infamie. Elle savait aussi, ou mieux, elle sentait que cette situation, ridicule pour tout autre, d'une épouse trompée dans sa famille la plus proche, presque sous ses yeux, ne provoquait dans leur société aucune épigramme contre Valentine. Les méchantes langues mélangeaient malgré elles, à leur ironie sur une telle naïveté, l'expression irrésistible d'une estime forcée. Les plus cruels disaient « Chaligny a bien raison, sa pauvre femme est si ennuyeuse !» Ou encore « C'est entendu, cette petite Chaligny est vertueuse, elle est jolie, elle est douce, elle est parfaite, et elle n'a pas su retenir son mari. C'est sa faute, tant pis pour elle !» Ces propos, et d'autres pareils, où l'on reconnaîtra l'humeur du monde contre une perfection qui déconcerte son pessimisme facile, marquait le terme extrême de la malveillance. Il n'empêchait pas que la marquise n'eût autour d'elle une atmosphère d'un respect de plus en plus déférent, et que son heureuse rivale ne perçut à toutes sortes de petits signes un commencement de déconsidération. Une jeune femme, dont on sait qu'elle a un amant, est aussitôt traitée par les autres femmes avec une curiosité, et par les hommes avec une attention également insultante. Elle devine dans les regards de celle-là l'intérêt, jaloux et méprisant à la fois, qui les attache aux aventures clandestines, et dans les regards de ceux-ci, le secret espoir d'une galanterie possible. Contre cette condamnation de sa faute par la lucidité polie des salons, la femme qui aime n'a qu'un refuge, le bonheur qu'elle donne. Il n'avait pas fallu un long temps à Jeanne pour constater que Chaligny n'était pas heureux par elle, et pour deviner que l'obstacle à ce bonheur venait des sentiments gardés par cet homme. À qui ? À l'épouse même qu'il trahissait. Beaucoup de maris infidèles sont ainsi. Leur ménage ne satisfait plus cet appétit de passion et de changement qui reste à tant d'hommes de leur jeunesse plus libre. La familiarité quotidienne a engourdi, comme émoussé, l'amour. Il arrive même, c'est encore un cas fréquent, que l'existence côte à côte, au lieu d'accroître la fusion des cœurs, l'a diminuée, et que, pour se voir tous les jours, les époux ne se voient plus. Que la femme soit trop pudique, trop réservée, l'homme gauche et susceptible, comme étaient Valentine et Norbert de Chaligny, des silences dans l'intimité s'établissent, à une profondeur étonnante qui explique seule tant d'inexplicables malentendus. Mais si ces impressions de monotonie et de froideur laissent celui qui les éprouve au foyer conjugal à la merci des pires caprices des sens et même du cœur, ce foyer qu'il déserte n'en est pas moins le coin sacré auquel il tient par ses plus fortes fibres. Il trompe sa femme, et elle reste celle qui porte son nom, la mère de ses enfants, la compagne à laquelle il réserve dans sa pensée une place unique. Il lui ment et il la respecte. Il l'outrage en secret, et ses égarements ne l'empêchent pas de mettre à part, très à part de ses maîtresses d'un instant, l'associée de ses heures vraies et sérieuses. Voilà les sentiments auxquels Jeanne de La Node n'avait cessé de se heurter dans le cœur de son amant durant ces 12 mois de leur liaison. Avec quelle irritation constante, on le devine, avec quel empoisonnement de la vieille blessure. Se permettait-elle de formuler la moindre observation critique qui pût toucher à Valentine, même de loin ? Une ombre passait sur le visage de Chaligny, où elle discernait trop nettement une sévérité à son égard. Faisait-elle une allusion à la possibilité que leur intrigue fût découverte par leur dupe? L'angoisse des yeux de son complice lui disait le prix qu'il attachait à l'estime de sa femme. Quand elle avait saisi un signe de cette persistante affection de Norbert pour celle qu'elle haïssait maintenant d'une haine accrue de remords, Jeanne redoublait de coquetterie vis-à-vis de lui. Elle essayait de prendre davantage cet homme, et elle était contrainte de s'adresser en lui aux plus obscures faiblesses de son être. Elle tentait de se l'attacher par la sensualité. Dans ce brutal domaine, elle était la plus forte, et cette évidence, en la rabaissant à ses propres yeux, excitait davantage son envie. Mesure-t-on maintenant le retentissement que devait avoir dans cette âme, toute rongée, toute minée par des réflexions de cet ordre, cette soudaine découverte? Madame de Chaligny n'était pas ce qu'elle paraissait? Elle avait un secret dans sa vie? Cette irréprochable épouse, que son mari se pardonnait à peine de tromper, courait Paris en fiacre, tandis que son mari la croyait gardée par ses gens. Elle s'échappait vers des rendez-vous clandestins, en laissant sa voiture à la porte d'une maison à plusieurs entrées, comme Jeanne faisait elle-même quand elle allait retrouver Chaligny. Cette Hermine de vertu dont l'éloge l'avait tant humiliée, toute petite fille, et l'humiliait plus cruellement aujourd'hui, n'était qu'une hypocrite et qu'une comédienne. Était-ce possible? 3. Première sape. Était-ce possible? Jeanne avait trop besoin de répondre oui à cette question pour que sa pensée ne se tendît pas, aussitôt et dans les instants qui suivirent, à ramasser en bloc les quelques arguments qui pouvaient confirmer cette inespérée, cette foudroyante découverte. Une fièvre l'avait saisie à la vue de Valentine fermant la portière du fiacre qui l'emportait vers un coin caché de ce vaste Paris, si peuplé de mystérieux asiles. Du coup, cette équipée de sa fière cousine avait réhabilité la maîtresse de Norbert à ses propres yeux, en rabaissant l'autre au même niveau. Et maintenant qu'elle avait constaté, par l'abandon de l'équipage officiel à la porte du grand magasin, que son premier soupçon était le juste, son excitation était si vive qu'elle ne se sentit pas capable d'attendre. La chose eût été si naturelle que Madame de Chaligny reparut, pour vérifier son attitude, la questionner peut-être, à coup sûr jouir de son embarras. Il lui eût suffi de se mettre dans le coupé abandonné, de façon qu'à la minute de sa rentrée, après sa course clandestine, la marquise la trouvât en face d'elle et fut contrainte d'avouer tacitement sa faute par sa seule confusion. Une telle action comportait un sang-froid dont Jeanne ne gardait pas l'énergie. Elle montrerait trop par son trouble qu'elle avait espionné sa rivale. Celle-ci, avertie de la sorte, et une fois le premier sursaut passé, se dominerait. Mise en défiance, elle prendrait garde de dépister toute surveillance qui pénétra son secret plus avant. Non. Pour arriver à savoir si vraiment Valentine cachait, elle aussi, un bonheur défendu dans sa vie, la première condition était que la rencontre d'aujourd'hui restât ignorée d'elle. L'instinct de Jeanne de La Node, dans l'étonnement de cette révélation, fut donc de fuir le regard de sa cousine et de rentrer chez elle. Elle y méditerait le plus sûr moyen de ne pas perdre le fil qu'une fantastique chance mettait dans ses doigts. Il lui sembla imprudent que même une personne de leur connaissance la rencontrât dans le voisinage de ce grand magasin, tant elle appréhendait que sa présence là, cet après-midi, fut dénoncée à Madame de Chaligny. Elle ne reconquit un peu de calme qu'au moment où, remontée dans sa voiture à elle, elle lui dit à son cocher de la ramener rue Barbet de Jouy. « Est-ce possible ?» se répétait-elle tandis que le cheval de louage allait le long des Tuileries d'abord, puis sur le quai et par le pont de Solferino. Quoi qu'elle en eût, tant de preuves de délicatesse données par Valentine depuis leur lointaine enfance s'élevaient dans son esprit, plaidaient pour la soupçonner, lutter contre la flétrissante hypothèse suggérée soudain par l'indice implacablement accusateur. Il y a pourtant des femmes qui font des charités cachées. Si Valentine allait chez des pauvres, tout simplement, et sans sa voiture, parce que ces pauvres, par exemple, habitaient un quartier perdu où son équipage eût causé un scandale, où ces gens eussent risqué d'être insultés. Dans ce cas, serait-elle entrée dans le magasin comme une coupable, habillée de couleurs sombres, craignant visiblement d'être suivie? En serait-elle sortie avec cette hâte et dans ces conditions? Les quartiers les plus humbles, aujourd'hui, avoisinent un boulevard, une place, un square, où une femme riche et généreuse vient avec ses chevaux, quitte à prendre là une autre voiture. Mais si Norbert lui a défendu ses charités? C'est bien facile à savoir. Je n'ai qu'à le lui demander à lui. La main de Jeanne esquissa le geste de serrer la petite poire dont l'appel communiquait avec le siège. Elle voulait donner au cocher l'ordre de s'arrêter en route à l'hôtel de la rue de Varennes. Telles étaient les commodités que les prérogatives du cousinage assuraient à son adultère. Elle laissa retomber la boule de caoutchouc sans l'avoir pressée. Ce serait la livrer si elle est coupable. Cela, je ne le ferai pas. Une toute première tentation. Pas même l'ombre de l'ombre d'idée d'une dénonciation venait d'effleurer sa pensée. Le même sentiment qui, depuis des années, la rendait envieuse de Valentine, l'avait aussitôt inclinée à une attitude de générosité. Elle s'y roidit, non sans une nuance de l'habituelle aigreur. « Je ne le ferai pas !» se répétait-elle. Et elle se disait encore « À quoi bon d'ailleurs ? Est-ce que je ne sais pas que Norbert ne s'occupe jamais de ses sorties ? Il a en elle une confiance si absolue. Je l'avais aussi. » « C'est égal, on n'agit pas comme je viens de la voir agir sans de bien graves raisons. Car enfin, elle pouvait être vue par quelqu'un d'autre que moi, et qui ne serait pas si indulgent. Où allait-elle ? Ah, je le saurais, mais comment ?